Toutes les séries ont une fin. Celle de l'aviron bâillonné à Jean Daugé s'est terminée ce samedi face à l'Union Bordeaux-Bègles. L'histoire retiendra que les ciels et blancs seront tout de même restés invaincus à la maison depuis janvier 2022. 28 matchs consécutifs sur sa pelouse sans enregistrer de défaite en top 14. Plus de 2 ans qu'on n'avait pas quitté Jean Daugé, déçu par le score. Il faut dire que cela faisait un moment que Bayonne pliait sans rompre, mais l'armada girondine a réussi en tout cas à casser le verrou basque. Alors, il va tout de même falloir rapidement rebondir parce qu'aujourd'hui Bayonne est 12e du tableau. 5 points seulement devant le barragiste Montpellier qui heureusement s'est effondré à la maison face à Perpignan, mais il ne reste plus que 4 rendez-vous pour sauver sa peau dans l'élite. En Pro D2, le BO de son côté a bien rebondi à Agen le week-end dernier avec sa victoire à l'extérieur 30-26. Le BO qui a désormais 7 points d'avance sur Montauban, l'actuel 15e, alors qu'il ne reste plus que 2 petites journées de championnat.
18h-19h, 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Julien Dejon.
Et pour débriefer Bayonne et Biarritz, nos consultants du mardi en studio, Yann Blanchard, salut.
Bonsoir Julien, bonsoir à tout le monde.
Et Benoît Caballero est là aussi, salut Benoît.
Bonsoir.
Bon, on va débuter par la petite déception du week-end, la fin de cette invincibilité à Jean Daugé face à une équipe de l'UBB pratiquement au complet. Yann, j'imagine que t'es forcément un petit peu déçu. C'est quoi ton sentiment là, à froid maintenant?
À froid, pas invité tout simplement sur ce genre de rencontre. Très souvent à Jean Daugé, pour pouvoir l'emporter, il faut que toi tu sois à 200%, il faut que l'adversaire soit à 80 ou 70%, il faut que la pièce elle retombe du bon côté, et il n'y a rien eu de tout ça. On peut pas en vouloir aux joueurs. J'ai vu une équipe de l'UBB, au contraire de d'habitude, très pragmatique, pas avec la folie qu'on aurait pu attendre avec ce qu'on appelle, apparemment il faut les appeler comme ça, les Galactiques derrière. Je les ai trouvés très pragmatiques, ils ont eu une gestion au pied assez remarquable, et voilà, et t'avais l'impression d'essayer mais de pas y arriver. Il y a eu ce petit éclair de soleil en début de deuxième mi-temps avec les deux essais coup sur coup, mais malheureusement voilà, Bordeaux a repris le dessus dans la foulée. Donc oui, c'est dur, mais voilà, pour le moment, sur ce genre de match-là, t'es pas invité. Je peux pas te dire que Bayonne a fait un mauvais match. C'est pas forcément le cas, mais tous les détails étaient côté bordelais. En témoigne notamment l'essai où il y a un coup de billard à 3 bandes avec 2 joueurs bayonnais qui sont touchés après un coup de pied de Jalibert, et puis ça atterrit dans un trou où il y a qu'un seul bordelais. Donc c'est à l'image du match. Le premier essai aussi où on aurait pu penser qu'il y avait un écran. Enfin voilà, c'est tous ces petits détails qui font qu'au final, tu peux pas t'en sortir sur un match comme ça.
Benoît ?
Je rejoins Yann. Après, j'ai trouvé un peu l'aviron dépassé, mais parce que en face, ils avaient une équipe monstrueuse aussi. Et je pense que depuis le début de la saison, c'est la seule équipe, la grosse équipe, qui a respecté Bayonne en venant et en jouant. Parce que souvent, Bayonne a fait des résultats serrés, enfin, a gagné de peu. Mais je pense au dernier La Rochelle ou quoi, où La Rochelle a failli gagner, mais a perdu parce qu'ils n'ont pas tellement respecté l'adversaire, Bayonne, qui soi-disant était un petit. Et se déplacer avec un melon pas possible. Et là, je pense que Bordeaux l'a pris du bon côté. Après, il faut dire que c'est la ligne arrière de l'équipe de France. C'est qu'ils ont perdu en Coupe d'Europe. Donc, ils ont plus droit à l'erreur parce que ce qu'ils veulent, c'est être champion de France. Ben, il faut dire qu'ils ont tous les ingrédients pour l'être.
Ouais. Non, mais Benoît parle de l'image de La Rochelle et je le rejoins là-dessus. On se souvient notamment en deuxième mi-temps, le nombre de pénalités non tentées par La Rochelle, ils allaient en touche, ils ont insisté. Là, on a vu jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au drop de Jalibert, qui ne sert strictement à rien, mais voilà, une espèce de respect, une espèce de jeu scolaire qu'on n'avait peut-être pas vu à l'UBB depuis le début de la saison, et une régularité. Et puis, j'étais le premier à le dire avant le match, donc je vais le dire après le match. Oui, on parle des mecs de derrière. Oui, c'est l'équipe de France. Enfin, devant, c'est pas des manchots non plus.
T'as sur le banc, t'as mis Founa, Lamotte sur le banc, déjà, règle sur le banc, hein. Ouais, alors, voilà. Ça, imaginez quand même aussi le reste, hein.
Non, et puis quand c'est rentré, Bonny, je l'avais dit à l'antenne de France Bleu Gironde, Boniface a fait un énorme match. Max Lucu, ouais. À chaque fois qu'il vient à Jean Daugé, c'est une masterclass, et il en a fait une, comme il avait pas fait depuis un petit moment.
Ouais, je crois qu'il a 100% au pied, hein.
Ouais, et puis même au-delà. Non, il en loupe une.
Il en loupe une?
Ouais. Mais même au-delà du pied, c'est dans sa gestion que je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Mais devant, ils ont fait un boulot monstrueux. Et bon, voilà, le seul regret, c'est que, notamment en première mi-temps, j'ai l'impression qu'on prend vraiment, vraiment le dessus sur la mêlée et qu'on n'est pas loin de basculer sur des pénalités, sur un carton. Donc Bordeaux l'a bien joué, sortait le ballon hyper rapidement des mêlées. C'était bien joué de leur part parce qu'ils subissaient quand même dans cette première mi-temps. Mais oui, que reprocher aux joueurs, voilà, t'as pas fait, y a pas eu de joueur en dessous, t'as donné ce que tu pouvais donner.
Non, ils se sont donnés à fond, parce que après tu vois qu'ils sont physiquement fatigués, tu vois que techniquement Bordeaux était supérieur. C'est vrai que cette équipe-là, je pense qu'ils pouvaient jouer encore une heure, ils auraient pas gagné, quoi.
Non, mais c'est ça. Et puis je répète, l'UBB était très pragmatique, a tenté tout ce qu'ils avaient à tenter.
Ils ont bien déplacé la défense parce qu'ils tapaient d'un coup de pied, puis de l'autre, après 50-22, enfin, ou qu'ils n'avaient pas pu se contrer.
Et d'un autre côté, quand je parlais de détails, c'est que nous, notre jeu au pied a été un peu long justement toute la partie. En témoigne notamment les 3 ou 4 arrêts de volée d'affilée de Jalibert qui faisaient redescendre la tension de ce match. Vu qu'ils avaient pris le score très tôt, ben ça leur rendait service, ça faisait rouler le chrono aussi pour eux. Voilà, cher Tiberghien qui malheureusement avec l'appui et tout a fait des en avant. L'équipe en entière a fait pas mal d'en avant.
Ouais, il y a eu beaucoup de.
Mais voilà, c'est toute une somme de petits détails qu'on n'avait pas vu d'habitude, mais qui n'est pas de la volonté des joueurs ou d'un non-match. C'est juste qu'en face c'était plus fort et il faut savoir s'incliner devant plus fort.
C'est vrai qu'il y a pire que de dire bon, cette série, ça faisait un petit moment qu'on se disait va forcément lâcher à un moment ou à un autre, lâcher face à l'UBB entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas honteux non plus. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte, revoir les classements, voir les feuilles de match. Perdre face à l'UBB, c'est pas non plus honteux, c'est pas encore catastrophique.
Il y avait un autre symbole, il y avait le retour de Yannick aussi au stade, et c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, notamment après la Rochelle et après la défaite à Noeta, où on se disait, tiens, est-ce que ça va pas être lui qui va mettre fin à cette série, et ils ont fait un match quasi parfait pour mettre fin à cette série, et voilà, on leur souhaite d'aller le plus loin possible à cette équipe de l'UBB, parce qu'il y a pas mal d'anciens Bayonnais quand même dans cette équipe. C'est vrai que quand l'équipe est arrivée, que j'ai commencé à dire bonjour au premier, en fait, j'ai pas arrêté de dire bonjour à des mecs parce que la formation bordelaise se déplace un peu côté Bayonnais.
Exactement. Bon, en tout cas, on va débriefer ça dans 100% rugby jusqu'à 19h. Yann Blanchard, Benoît Caballero avec nous. On va revenir, hein, bien sûr, sur cette rencontre un peu plus en détail et cette défaite face à l'Union Bordeaux-Bègles. Et on va aborder cette victoire qui fait plaisir du côté d'Aguilera, la victoire face à Agen, en Pro D2.
18h-19h, 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Julien Dejon.
Et avec Yann Blanchard et Benoît Caballero ce soir dans 100% rugby, hein, jusqu'à 19h, retour sur cette défaite de l'Aviron Bayonnais face à l'Union Bordeaux-Bègles, fin de série, hein, pour les Ciels et Blancs. Est-ce que quelque part, c'est aussi un peu de pression en moins, cette défaite de l'Aviron Bayonnais à la maison? Parce que c'est vrai que tous les week-ends, on cochait comme ça, on était content de se dire on est invincible à la maison. Est-ce que quelque part, il y aura peut-être plus cette espèce de petite pression qu'on a avant chaque match en disant de toute façon, faut qu'on gagne à la maison, une espèce de série en cours, là, comme ça?
Alors, oui, pression au moins.
Le résultat jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire série ou pas série, tu as besoin de points pour te sauver et éviter cette 13e place. Donc la pression sera toujours là. Et le prochain match, c'est un déplacement du côté d'Auxerre pour affronter le Racing. Mais la réception de Perpignan et la réception de Castres lors de la dernière journée seront vitales pour le futur de l'Aviron Bayonnais en top 14. Donc, ouais, franchement, la pression, au moins cette fin de saison, tu l'auras, même si la série s'est arrêtée.
Mais disons que la pression, t'es obligé de l'avoir parce que il faut que tu sauves ton club en top 14. Mais après, vouloir tout le temps gagner à la maison, bien évidemment, c'est plus facile. Mais l'aviron, ce qui a pas été fait cette année, c'est de gagner à l'extérieur pour pouvoir justement dire à Noeta, bon, ben on a perdu à Noeta, ok, mais on a quand même gagné à l'extérieur. Et tout ça, en fait, il y a pas eu. Donc c'est pour ça que là, tu te retrouves avec une grosse pression justement.
On n'a pas gagné au Stade Français.
Ah non, pardon, c'est vrai.
Non, malheureusement. Non.
Ça, on va pas en reparler.
Ça s'est joué.
Mais tu vois, honnêtement, ouais. je trouve que l'équipe a tout donné contre Bayonne et contre le Stade Français se retrancher. Alors je vais en prendre plein la figure, mais se retrancher derrière l'arbitrage. Et tu vois, je vois pas le truc positif là-dedans. Si tu te dis bon, mais contre le Stade Français, effectivement, on a pas fait ça de bien. Tu vois ce que je veux dire?
Et t'avais une autre équipe en face.
Voilà.
Et j'en profite juste parce que ça me tenait à cœur et j'ai passé ma semaine là-dessus pour dire que avec Benoît, on est amis, vraiment amis, même hors de l'antenne, et que je ne supporte en aucun cas les insultes qui ont été proférées envers lui après l'émission de mardi dernier. Il est dans son rôle, je suis dans le mien. On avait discuté du Stade français déjà bien avant par téléphone et par message.
Le jour même.
Et on s'est régalé à débattre et on débat et on a le droit de pas être d'accord. Mais chacun est dans son rôle et donc juste calmez-vous tout le monde. C'est juste un jeu pour nous, c'est une récréation. Exactement. Et j'ai envie que ça continue de l'être.
C'est pas un ring en fait, un studio de France Bleu Pays Basque loin de là.
Il a failli prendre une tarte ce mardi dernier. Mais
oui, mais une tarte à la crème. C'est une tarte remplie d'amour.
Il aurait mérité une tarte, mais. D'ailleurs, François Gélès m'appelait. Mais non, c'est pas vrai. Mais oui, donc oui, c'était pas la même équipe. Je suis désolé. Je continue et je m'évertue. Je dirais jusqu'au bout, même s'ils sont champions de France, que cette équipe du Stade Français m'impressionne par exemple beaucoup moins.
Ah oui, moi aussi.
Que l'UBB, que tout, bon, Toulouse bien sûr, que qui sait qui a d'autres en haut, que même quand La Rochelle malade. Enfin voilà, je trouve que même un La Rochelle malade comme on a vu dimanche m'impressionne plus qu'un Stade Français.
Greg Patel a dit, globalement, on passe à côté de la première mi-temps. On a essayé d'envoyer du jeu, mais les conditions n'étaient pas idéales. On a été fébrile avec les conditions. C'est que, bon, compliqué d'envoyer du jeu, hein, sur la première mi-temps. Il pleut beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas voulu peut-être trop jouer en première mi-temps?
Je sais pas. Je trouve pas qu'on a trop joué. On n'a pas plus joué que d'habitude.
Mais évidemment, tu faisais les en avant.
Voilà.
C'est ça le problème.
Je pense que c'est même l'inverse. Je pense que c'est même peut-être notre gestion au pied qui a été moins bonne que d'habitude. Des coups de pied un peu longs. Et nous, au contraire, sous les ballons, beaucoup d'en avant. Donc, je suis pas sûr que ce soit trop de jeu. Il y a aussi ce fait de jeu d'entrée où tu prends un essai d'entrée. Donc, forcément, quand t'as la pression et en plus tu prends cet essai, il n'est pas casquette, mais c'est vrai que oui, un peu quand même. Forcément, tu n'es pas dans le meilleur mouvement pour l'emporter. Et puis gestion parfaite de l'UBB qui après a tapé quelques pénalités. Max Lucu impeccable et tu te retrouves déjà à 18-3 à la mi-temps. Il y a un fait de jeu juste avant la mi-temps qui moi m'interpelle sur Erbin Artegaray, sur un ruck où ça aurait mérité peut-être de revoir quelques images, mais du coup au final ça fait quand même 18-3 à la mi-temps, c'est déjà beaucoup en fait à la mi-temps. Et après l'UBB a laissé passer la tempête en début de deuxième mi-temps et après ils ont recommencé à gérer leur match comme ils l'ont fait depuis le début de la
mi-temps. Et si le temps était resté comme en première mi-temps, je suis pas sûr que le score soit aussi large. Parce qu'en seconde mi-temps, il faisait plutôt beau, il me semble.
Oui. Mais Patrick Bruel avait arrêté de chanter.
Oh. Non, mais je pense que ça aurait beaucoup changé parce que l'UBB n'aurait pas autant joué qu'ils ont joué. Et ça aurait pu changer la donne, je pense, pour l'aviron.
Je trouve pas, justement, par rapport à l'habitude, que l'UBB a surjoué ou trop joué. J'ai trouvé vraiment très, très pragmatique dans leur jeu.
Dans la gestion.
C'est une grosse équipe. On n'avait pas besoin de ce match pour le savoir, hein, mais oui, c'est vraiment une grosse équipe qui s'est mise, je pense, en mode phase finale aussi. Benoît le disait, ils ont plus que ça. C'est-à-dire que Max Lucu avait lancé le match 3 semaines plus tôt, puisqu'en loupant sa transformation, du coup, il n'y a plus la demi-finale de Coupe d'Europe. On aurait pu penser qu'ils auraient fait tourner si jamais la demi de Coupe d'Europe la semaine d'après. Et là, ça n'a pas été le cas et ils n'ont plus que ça. Donc voilà, ils avaient une semaine de vacances derrière, un bon repas à la Bellothèque chez notre ami David Roumieux et voilà, ils ont passé un bon week-end sur la côte de Basque.
Et puis c'est ça qu'ils savent rebondir, parce que tu reviens quand même à 18-15, tout début de seconde période. Tu marques deux essais quand même en moins de 10 minutes.
Ça rebascule dans l'autre sens beaucoup trop vite. J'ai échangé avec Roger pendant le match, Roger Aguerre, quand il me parlait de l'arbitrage. Voilà, dès que l'UBB.
Ah, lui aussi.
Oui. Non, il trouvait cohérent en première mi-temps et bien sûr quand c'est Bayonne qui a mis la marche en avant, il le trouvait beaucoup moins cohérent.
Je préfère.
Et en fait, l'UBB a remis la marche en avant et du coup les pénalités ont recommencé à pleuvoir pour eux. Ce que moi je trouve logique, j'aimerais bien le voir sur tous les terrains, mais je trouve plutôt logique que l'équipe qui domine ait plus de pénalités que l'autre. Ça a été trop vite. S'il y a les fautes, oui.
Oui, voilà, c'est les fautes.
Excusez-moi, Benoît. Hein. S'il y a les fautes, et quand on les voit, et si on utilise la vidéo. Mais ça a été trop vite, en fait, le renversement par l'UBB. Ils ont marqué beaucoup trop vite après être revenus à 18-15. Il y aurait pu avoir un peu de doute. J'en discutais dans les vestiaires après le match avec Ami Lopez, qui me dit, putain, j'y ai cru quand on revient à 18-15. Ouais, ouais. Mais ça a été trop vite. Ils ont repris le dessus beaucoup trop vite. Ça n'a pas eu le temps de s'embraser.
Dommage. Parce que du coup, c'est vrai que tu y crois forcément, tu reviens à dire.
Oui,
en 10 minutes, tu repasses et tu viens après derrière, tu reprends un peu.
Et comme dit Yann, il marque beaucoup trop vite derrière. Et puis, je trouve que comparé à d'habitude, Bayonne a beaucoup plus vite baissé les bras aussi. Tu vois, les museaux en bas, c'était plus dur, quoi. Mais...
Ouais, après, on était chahutés en touche, ce qui n'est pas forcément le cas à nos matchs. Bon, en mêlée, après, en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer Tame Ifuna qui a calé un peu plus, même si je continue de nous avoir trouvé dominateurs sur ce sujet-là. Mais voilà, ils nous ont contré le peu qu'on avait, et le peu qu'on avait, on le faisait pas, on n'était pas dans les détails. Voilà, il y avait beaucoup de scories qui ont fait qu'on se retrouve, et bien, que l'UBB reprend le dessus.
Yann Blanchard, Benoît Caballero avec nous jusqu'à 19h pour ce 100% rugby. Retour aujourd'hui sur la défaite de Bayonne à Jean Daugé face à l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir bien sûr sur la victoire du BO du côté d'Agen. C'était également le week-end dernier. Il ne reste plus que deux matchs hein, dans cette Pro D2 et le BO compte désormais 7 points d'avance sur Montauban. Je pense, on espère en tout cas que le BO a plus ou moins acquis en tout cas son maintien en Pro D2 le week-end dernier. On va en débattre avec Yann Blanchard et Benoît Caballero d'ici 19h, c'est promis.
100% rugby, les infos du jour.
100% rugby jusqu'à 19h. Yann Blanchard, Benoît Caballero, nos consultants du mardi. Les infos du jour. Tiens, avec le Qatar qui se penche sur le rugby, on apprend aujourd'hui que le Qatar serait prêt à sortir les liasses de billets pour accueillir les finales de la future Ligue des Nations. Et quand je dis liasses de billets, le montant fait tourner la tête, hein, puisque le Qatar proposerait 1 milliard d'euros pour les 4 prochaines éditions de cette nouvelle compétition qui doit être lancée en 2026. Le Qatar veut un Super Bowl du rugby. C'est comme ça, en tout cas, que c'est présenté. World Rugby aurait une semaine pour donner une réponse. Alors la Ligue des Nations remplacerait les traditionnelles tournées d'été et d'automne avec les équipes du tournoi des Six Nations et celles du Championship, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie, Argentine. Il y aura également deux autres nations invitées pour faire une compétition à 12. Ces 12 feront partir de la première division parce que l'idée c'est d'avoir d'autres pays, des deux hémisphères pour faire une seconde division avec des finales d'accession, des finales pour le titre de première division. Et c'est ces finales en fait que veut organiser le Qatar. Alors je dois avouer que déjà cette compétition moi me botte pas franchement, dans un calendrier bien chargé, jouer ça dans un pays qui n'a pas franchement d'équipe nationale de rugby, je comprends pas trop. Alors oui, pour des questions géographiques, c'est vrai que le Qatar, bon bah t'es à mi-chemin entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt. C'est encore une question d'argent peut-être, Yann, parce que bon.
On a perdu Benoît Caballero dans tes explications.
Non, mais j'ai compris, mais je...
Oui, une histoire d'argent. Est-ce que c'est plus ou moins débile que des Sud-Africains en Coupe d'Europe? Je ne suis pas sûr. Quel est l'intérêt de cette compétition? J'en sais rien. Est-ce que, sur quelle date elle va être positionnée? Parce que si c'est positionné toujours sur les tournées de juin, ben, c'est notamment l'équipe de France, il n'y a pas les finalistes et les demi-finalistes du championnat. Donc ça veut dire que c'est pas non plus l'équipe... l'équipe de France 1, c'est un peu une sorte d'équipe de France développement. Donc écoute, j'ai pas d'avis là-dessus. Dans tous les cas, cette compétition pour le moment ne m'intéresse pas. Et
en plus, qui irait au Qatar? Enfin, il y a eu
les Qataris, quoi.
Oui, mais bon, ils sont pas intéressés par le rugby. Il y en a même pas là-bas, donc.
Et m'engueule pas, c'est pas ma décision.
S'ils avaient déjà des investi dans des clubs ici, d'ailleurs, à Biarritz, ils peuvent, y a pas.
Non, mais je veux dire,
entrepreneur.
Tu peux l'organiser.
Ce repreneur.
Un coup en France.
Je respecte l'entrepreneur, mais le stade, il faut qu'il soit un peu. Ouais, à Rostegui, il faut que.
Non, mais il s'est jamais mouillé, là. Il commence à se mouiller. Depuis qu'il va
signer. Prends la confiance, chaud, la fin de saison arrive, il est en confiance.
Depuis qu'il va signer arbitre à Mouguer, lui, ça y est, il a enfin un avis.
C'est tôt.
Non, mais c'est vrai que moi, j'aurais peut-être vu ça, voilà, soit en Australie, en France. Enfin, changer comme ça les pays qui ont des équipes nationales pour pouvoir faire plaisir aussi aux supporters, quelque part, et avoir ce partage comme on peut avoir sur une Coupe du Monde ou.
Oui, en vrai. Partage, on l'a vu sur cette Coupe du Monde en France avec des billets en moyenne, je pense à 200-300 euros. Si c'est ça le partage, les gens pourront pas les mettre une fois tout.
Encore à Bayonne, quoi. Le prix des billets.
C'est le prix de l'abonnement que tu as payé toi, mais c'est un abonnement, c'est pour les 15 matchs que tu as vu cette saison.
Il y a du mal avec les maths, visiblement.
Ouais. Oh non, non.
Le match, tiens, Montpellier-USAP qui continue de faire parler, après l'épisode de la billetterie fermée pour éviter un trop grand nombre de supporters catalans au stade Yves du Manoir, qui n'a pas empêché un 4100 cœurs de prendre place autour du terrain. Mais voilà que le MHR en oublie la politesse, visiblement. En tout cas, le président de l'USAP était l'invité de France Bleu Roussillon. Hier, il a qualifié l'accueil des Montpellierains très froid. On ne parle pas de l'accueil des supporters, hein, mais l'accueil de l'équipe, du staff et des dirigeants. François Rivière dit « Je pense que Montpellier le prend mal de se faire doubler. Leur situation n'est objectivement pas simple. On l'a vécu, donc on ne doit pas faire les malins. Mais je pense que même si la situation sportive est compliquée, on doit faire preuve d'une capacité d'accueil et d'empathie, ne serait-ce que par politesse. On le faisait à Aimé Gérald en début de saison, quand les résultats sportifs n'étaient pas ce qu'ils sont actuellement. » Et c'est vrai que pendant le match, on a vu Altrad au bord du terrain et pas dans les tribunes. Et je me suis fait la réflexion, d'ailleurs, sympa le président. Il va pas en tribune comme ça se fait d'habitude avec les autres dirigeants, les autres présidents de clubs. Ils sont mauvais perdants, ou les Montpellierains?
On sent que c'est ton côté perpignanais qui ressort. Mais je suis personne. Mais attention aux perpignanais. C'est pour le moment la gentille petite équipe où tout le monde est content de les voir là. Bon, cette déclaration, on s'en passerait. Le président Altrad est comme tous les présidents, c'est-à-dire qu'il a une pression monstrueuse sur la descente. Il avait peut-être envie de voir ce match match-là justement au plus près. Ça peut arriver. Je sais que du côté de Bayonne, Philippe Taïeb a déjà radé des matchs en bord terrain. Chaque match à la 60e, il descend aussi à peu près au même tempo. Donc ça veut dire que le président adverse aussi est tout seul pendant 20 minutes. Ça n'a rien à voir avec un accueil. C'est au bout d'un moment, c'est vivre ce moment-là et vivre cette pression. Parce que Mouad El Trad, pour mettre les millions qu'il a mis dans le rugby, c'est que ça reste un passionné comme un autre. Et que là, je pense qu'il avait besoin de se resserrer autour de ce match. Donc je trouve ça catastrophique. Ça n'a pas changé le match de Rivière de ne pas avoir Mouad El Trad à côté de lui. Il a vécu son match, il a gagné. Voilà, profil bas et continuer d'être la gentille petite équipe et pas faire ce genre de déclaration.
Allez, tu as une petite...
100% d'accord, Yann.
Et ben voilà. Et ben 0,5, ça
coûte. Si tu
Et ben pour une fois, c'est bien. 0,5, 59, 59, 17, 17. Et qui peut battre? Vous allez jouer soit dans la team Yann Blanchard, soit dans la team Benoît Caballero pour tenter de repartir avec un joli ballon de rugby. Le ballon de rugby France Bleu Pays Basque. De quoi se faire plaisir en famille ou entre amis avec des enfants aussi. C'est un petit cadeau plutôt sympa d'avoir un ballon de rugby toujours à la maison. Ça fait bien plaisir. 0,5, 59, 59, 17, 17. Et puis le plaisir de jouer aussi avec nos deux stars du mardi, Yann Blanchard, Benoît Caballero, allez à vous de jouer. Yann Blanchard, Benoît Caballero dans 100% rugby jusqu'à 19h, c'est l'heure de jouer à qui peut battre pour tenter de repartir avec son petit ballon de rugby France Bleu Pays Basque. Dominique est un sapalé, bonjour Dominique.
Oui, bonsoir.
Dominique, vous allez jouer avec qui?
Benoît Caballero.
Vous allez jouer avec Benoît Caballero.
Bon. Bonsoir Dominique.
Eh bien écoutez, c'est votre choix Dominique. Si jamais vous gagnez face à Yann Blanchard, vous repartirez avec votre ballon de rugby, Dominique.
D'accord.
Bon, est-ce qu'on est parti? La première question, je vais la retrouver. Elle est là, la première question. Dites-moi, ce week-end, c'est repos pour le top 14. Toulouse, de son côté, prépare sa demi-finale de Champions Cup à la maison face aux Harlequins. Dimanche, les Harlequins, justement, se sont qualifiés en éliminant qui?
UBB.
Boum. Tu savais pas, Benoît?
J'aurais réfléchi, j'aurais trouvé, mais là, non, comme ça, pam, non.
L'UBB, effectivement, les Harlequins ont battu l'UBB 42-41, c'était à...
Dominique,
à
vous êtes toujours là?
Vous voulez changer d'équipe?
Non, non.
Vous l'aviez, vous, l'UBB, ou pas face au Harlequins?
C'est à moi que vous parlez, Dominique?
Oui, c'est à vous, Dominique, que je parle. Vous l'aviez ou pas?
Oui, j'ai vu le match.
Ah, bon, il faut répondre.
Il faut dégainer.
Dominique. Faut dégainer.
Parce que si vous comptez sur moi.
Non, parce que Yann Blanchard, il ne va pas vous laisser de la priorité. Hein. Je vous préviens. La question numéro 2. Le Stade toulousain, qui pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs, dont un arrière-ailier international italien, lequel?
Capuzzo.
Ouais. Benoît, il est là.
Non, mais j'étais avec Ramos, je cherchais l'italien.
Une biche pris dans les phares, oui, Benoît Caballero, sur ce coup.
Vas-y, fais la troisième.
Allez, il faut une autre. Dominique.
On fait la troisième quand même.
Oui.
Allez, pour la gloire. Clermont a battu le leader, le Stade français au Michelin, le week-end dernier, 41-18. Un jaunard a marqué un triplé.
Baptiste Jauneau.
Non.
Raka.
Oui.
Raka, oui.
Oui, Raka, qui n'est plus qu'à un essai d'ailleurs d'entrer dans le top 10 des meilleurs marqueurs d'essai du top 14. Non, c'est ça,
Raka, même si on attendait la fin.
Je donne quelques infos en plus.
Pourquoi Dominique puisse répondre?
Voilà, parce que Raka a marqué donc 65 essais depuis son premier match pro en 2015. Tuisova lui a marqué, est actuellement 10e, a marqué 66 essais. Donc Raka a un point d'intégrer le top 10 des marqueurs d'essai de top 14. C'est qui détient le record?
Claire, non?
Oui, exactement. C'est Vincent Claire avec ce record de 101 essais marqués en top 14 durant toute sa carrière. Yann. Ouais,
et Jauneau qui marque un essai formidable.
Il était très bon d'ailleurs.
Tout seul. Ouais.
C'est bien, mais c'était pas la réponse.
Ouais, mais vu que c'est un ancien biarro, je préfère le dire.
Et d'accord, et du coup, les trois essais de Raka, bien ou bien?
J'ai pas vu. Mais j'ai vu essai de Jauneau et ça m'a suffi.
Et ça t'a suffi, voilà, ça suffit au bonheur de Benoît Caballero. Bon, Yann Blanchard, tu donnes ton ballon à Dominique, toi t'en as.
Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
T'en as 15 déjà à la maison, toi, des ballons France Bleu Pays Basque.
Jamais eu, hein, c'est d'ailleurs un scandale.
Eh bien, écoute, ça sera ton cadeau de fin d'année, ouais. Yann Blanchard, c'est pour service rendu à la patrie, tu auras ton petit ballon France Bleu Pays Basque. Dominique, en tout cas, c'est pour vous, ces cadeaux.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Vous supportez l'aviron?
Oui.
Bah oui, non, mais ça vous.
Et pourquoi vous avez pris Benoît alors?
Parce que j'arrive dans la région et c'est la première fois que je joue, donc je ne savais pas.
Ah ouais, non.
Merci pour la réponse.
Pour la prochaine fois, Dominique. Pour la prochaine fois, Dominique, il faut jamais prendre Benoît le mardi. Jamais, jamais. Et il en gagne une toutes les 15 émissions. Donc,
ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi.
Dès que vous entendez Benoît, vous dites non, quoi.
Dominique, à très bientôt, en tout cas, sur France Bleu Pays Basque.
D'accord.
Allez, au revoir. Et 100% rugby jusqu'à 19h, après l'aviron bayonné, place au BO. Le BO, allez, je me mouille un petit peu, mais j'espère, en tout cas, un pied et demi en Pro D2. En tout cas, le BO a fait un grand pas vers son maintien en allant s'imposer chez le mal classé Agen, concurrent direct du pas de tableau. Aujourd'hui, le BO reste, c'est vrai, 14e, avec 7 points d'avance sur Montauban, le barragiste. Alors, gagner à Armandie, ce n'est jamais évident, et le BO a fait le job, même si, une fois de plus, les Biarros, s'ont fait un petit peu peur, quand même, hein, en fin de rencontre, Yann.
Oui, mais il fallait le faire. Agen qui n'avait pas grand-chose à jouer. D'ailleurs, ils se sont maintenus avec les résultats de vendredi. Ça y est, ils sont officiellement maintenus. Je disais que peut-être qu'ils auraient du mal à remettre la machine en route et ça a été le cas. Ça a été très inconstant, très irrégulier. On n'a pas vu un joli match de rugby. Mais Biarritz a su se nourrir des erreurs à Genèse et du coup, s'en sort avec une victoire quasi, peut-être un peu inespérée avant la rencontre vu les dernières semaines du Biarritz Olympique. Et oui, on ne va pas jouer au devers, mais oui, bien sûr qu'ils sont maintenus. Montauban ne gagnera pas les deux matchs qui leur restent et donc superbe perf du Biarritz Olympique. Qui par séquence on les a retrouvés, on a retrouvé ce qu'on avait vu depuis que Manix est arrivé. Et avec des joueurs, on parle souvent des joueurs cadres qui ont été parfois absents, des joueurs cadres qui ont cette fois-ci été très bons. Je pense notamment à d'ailleurs qui a été très très bon. Benoît Caballero dit que non, mais moi je l'ai trouvé très très bon.
C'est ce que j'ai dit en off, c'est pour ça qu'il le répète.
Incroyable. Je l'ai trouvé très bon. Et du coup, ouf de soulagement du côté du Biarritz Olympique avec cette victoire-là parce qu'il s'était mal embarqué et que heureusement qu'encore une fois que la semaine dernière Montauban n'a pas gagné à domicile et donc ils vont s'en sortir par la petite porte certes, mais au moins ça va ramener des sourires et ça va pouvoir bosser plus sereinement pour la saison prochaine.
Je te l'ai dit, un grand club ne meurt jamais, Yann.
Je suis totalement d'accord avec toi et je n'ai pas de mal à dire que le Biarritz Olympique est un grand club.
Ah bon?
36, c'est vrai que c'est à la fin, on a un peu tremblé parce que ils perdent un dernier ballon pas très loin de la ligne, ça a failli basculer là.
Oui, mais sur le match, Biarritz a été beaucoup plus agressif en conquête et tout, ça a été meilleur du côté de Biarritz. C'était un peu aussi le match de la mort pour Biarritz, donc il fallait absolument au moins se rassurer en termes de jeu parce que l'avant-dernier match était un peu cata contre Grenoble, donc c'est chose faite. Là, je pense qu'ils vont recevoir Provence un peu plus libéré et avec un point même de bonus défensif, tu te sauves quasi sûr, en tout cas mathématiquement. Donc très bonne chance pour Biarritz.
Et il y a la défaite de Béziers qui fait qu'aussi Aix va venir peut-être en faisant tourner un peu contre une équipe qui va jouer le maintien. Est-ce qu'il y a un petit matelas là pour les deux premiers, pour Vannes et pour Aix?
Il y a 10 points d'écart entre Provence et Béziers.
Ouais, donc ça veut dire que la qualif est quasiment acquise en demi-finale, donc ils vont pouvoir se permettre de faire tourner du côté de Biarritz Olympique et on souhaite vraiment que le Biarritz Olympique pour cette dernière à domicile, et ben voilà, avec le peu de public qui est resté fidèle, et ben s'en sorte avec une victoire, comme ça il y aura pas de pression sur le dernier match.
Ouais, parce que de toute façon même Provence Rugby, on va dire avec un seul point bonus glané quelque part, ça suffira largement pour être.
Oui, mais autant gagner.
Mais autant gagner, bien sûr, mais Provence Rugby Provence Rugby. Avec non, un point bonus, ils sont
en demi-finale, quoi qu'il arrive. Les deux demi-finalistes, c'est fait.
Oui, je crois que je les ai vus.
Oui, c'est Vannes et Provence.
Oui, c'est ça. Mais sinon, il y a du 10 points d'écart. Marc, après, je ne sais pas le goal average, le nombre des
sacs, etc. Je les ai vus mettre une publication comme quoi ils étaient en demi. Donc
Vannes et Provence rugby, c'est bon. Après, il reste à savoir premier, deuxième, parce que Vannes a 87 points, Provence a 86. Mais oui, effectivement, bon, après, peu importe, premier ou deuxième, l'important, c'est d'arriver.
Oui, après, jouer un troisième ou un quatrième, ça ne change pas grand-chose. Chose pour la demi-finale, donc il n'y a pas de vérité. Et reste à savoir, troisième Béziers sur cette Pro D2, oui. Et reste à voir le reste du classement, parce que le match qu'on a vu vendredi soir à 21h, le Mont-de-Marsan Dax, je pense, le résultat a étonné beaucoup de monde. Là aussi, Dax s'est fait peur, parce que Mont-de-Marsan réduit à 14, ça leur a permis de re-rentrer dans le match. Ils étaient totalement absents. Cette équipe de Dax détonne. Cette équipe est composée de clébards, et ils lâchent rien. Dans les rucks, c'était 39-45 dans les rucks.
Ils jouent simple.
Ils jouent très simple, c'est des clébards, quoi, du début à la fin. On témoigne notamment la perf d'un mec qui n'est pas gardé à la fin de la saison. Un mec comme Max Delonca a fait une partie exceptionnelle. Et ils s'en sortent. Bon, quand je dis que c'était la guerre dans les rucks, ça aurait été peut-être un peu mieux de les arbitrer les rucks, mais mais bon, tant mieux pour Dax. Ah,
si c'est pas sifflé, tu continues. Ah, bah, hein.
Là, je pense qu'ils ont capté très vite dans le match. Ça, rien ne serait sifflé de toute façon.
Moi, tu y vas. Hein.
Avec une belle
c'est du tri. On s'appelle du tri.
Ouais. là, l'arbitre s'est dit, je vais rien trier.
Je vais tout trier.
Et Mandeux allait bouler, c'est normal. Et Dax, attention, parce que Dax reçoit Agen à la prochaine journée. Donc Agen qui n'a plus rien à jouer et qui de toute façon a la tête dans la carafe. Et ça serait pas étonnant de voir Dax finir quatrième et recevoir un barrage, ce qui était complètement inespéré en début de saison. Donc chapeau à Jean-Frédéric, parce que ça serait trop facile de l'appeler Jeff. Il s'appelle Jean-Frédéric Dubois, le manager, avec ses équipes qui ils ont fait corps et ils vont aller se chercher une fin de saison extraordinaire.
Ce qui est beau déjà, c'est s'ils gagnent la semaine prochaine, ils sont
qualifiés.
Déjà qualifiés, c'est incroyable, qualifiés. Parce que je crois qu'il n'est jamais arrivé en plus.
Oh, dans le passé récent, oui, Dax a déjà été en phase finale, ça c'est sûr.
Non, je parle d'un promu qui se qualifie en phase finale.
Ben, je l'ai dit la semaine dernière, on a une saison assez étonnante puisque les deux promus vont se maintenir. Donc, franchement, c'est une Pro D2 au moins sur les classements qui est assez intéressante et à voir qui ira au bout entre Vannes, Aix, Béziers à l'affût et pourquoi pas une surprise qui nous dit que ce sera pas Dax en finale.
En tout cas, Dax a battu Stade Montois, donc 18-13. Ça, c'est pour avoir le score et pour vous donner un peu la photo du classement. Dax, donc actuellement 5e avec 73 points. Un point derrière Grenoble, 74 points. Et 4 points désormais donc devant le Stade Montois, 69 points. Le Stade Montois qui va recevoir Montauban la semaine prochaine. Montauban qui presque les deux pieds bas qui barragiste, pratiquement. Voilà, sauf si Biarritz s'écroule complètement, mais normalement...
Et sauf si Rouen leur passe devant. Parce qu'il
sauf si Rouen leur passe devant, ceux qui a 3 points.
Il n'y a que 3 points et donc attention, là aussi Rouen je crois reçoit Angoulême sur cette avant-dernière journée et Angoulême qui n'aura plus rien à jouer, on l'a vu avec des belles images de vestiaire avec bon je sais pas trop ce qu'il est, je crois que c'est directeur sportif, mais Fabrice Landreau qui nous a sorti son plus beau Benibi comme chaque année,
mais vous partout. Êtes fou
voilà, comme partout où il est passé, on se souvient des images notamment à Cognac il y a quelques années et ça fait des années qu'il fait ça, donc Rouen attention à Montauban parce que là Montauban se déplace au Stade Montois qui a grandement besoin de points.
Ils reçoivent le Stade Montois.
Mais que ça revient au même puisque Mont-de-Marsan a grandement besoin de points
pour se
qualifier. Et donc attention à ce que Montauban ne soit pas une descente directe et que voilà, c'est un gros bastion de Pro D2 qui disparaîtrait.
Donc,
il sera arbitré par Benoît Caballero la saison prochaine.
Parce que Benoît... Ah oui, en national, Montauban.
Eh bien oui, sauf si tu montes en Pro D2. Ouais. Si les instances t'ont vu arbitrer, normalement tu serais en top 14 directement. Mais...
Oh ben, c'est rare que tu dises ça d'un arbitre à toi.
J'ai toujours dit que t'étais très bon.
Ah, le meilleur d'entre nous. Bon, en tout cas, on retiendra la réaction, c'est vrai, de Biarritz le week-end dernier à Agen. Charlie Mathieu le disait, on le devait de façon aux supporters, à nos familles et à notre club après la claque enregistré face à Grenoble, reste maintenant quand même à confirmer en fin de saison, parce qu'on est plus ou moins maintenu que maintenant on peut aller en roue libre.
Non, mais il va y avoir le changement de président actif, on va en voir un peu plus sur les départs, sur les arrivées, il y a des joueurs qui étaient annoncés partant, que les nouveaux présidents voudraient garder, on va voir si ça peut se faire ou pas, donc on va pouvoir y voir plus clair du côté de Biarritz, et là l'ambiance à l'entraînement doit être quand même, les joueurs doivent être soulagés, décontractés, et oui, à eux d'offrir une dernière victoire à leurs supporters cette saison. Pour une saison qui sera vraiment à oublier pour eux, parce qu'ils ont eu très très chaud, et c'est passé à un poil.
Un poil. Fini comme ça, un poil.
Un poil. En tout cas, bon, tu recevras Aix le 10 mai à Aguilera pour ce dernier match de la saison à la maison. De quoi, on l'espère, régaler en tout cas les supporters qui seront présents et entériner définitivement ce maintien en Pro D2. Benoît Caballero, bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tous.
À mardi prochain, Yann, on se dit à demain.
À demain.
100% rugby amateur.
Mai, on bosse quand même.
Ah oui, on bosse nous. Ah oui, non mais. Oui, monsieur Yann Blanchard. Demain on travaille. Et demain on travaille. Et spécial rugby amateur avec les filles de l'ASB, les filles du phare et avec Saint-Pé-sur-Nivelle.
Encore Saint-Pé.
Ouais.
Donc il y a Mickaël. Donc
il y a Mickaël.
Je me tape Mickaël en plus. Quoi.
Oui, et avec des poules. Mais il y aura des boucliers, tu vas voir, ils sont jolis.
D'accord.
Tu vas te régaler.
C'est allez, chasseur de boucliers.
Une bonne soirée sur France Bleu Pays Basque. À demain.